Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la Bible? Quelle question, Joël. Eh oui, c'est ce livre encore que nous allons ouvrir, le livre des livres, le livre qui est aujourd'hui encore le plus vendu dans le monde et pour cause. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle puisse être répandue sur toute la surface de la terre. D'ailleurs, la Bible dit « Après quoi viendra la fin du monde ?» Dimanche dernier, nous avons regardé ensemble plusieurs points concernant ce qui sort de notre bouche, nos paroles. Nous avions vu ensemble quatre bonnes raisons de faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. En effet, on a vu ensemble que nos paroles sont comparables à une semence, eh bien, que nous récolterons, c'est une question de temps, et que même nous consommerons les uns et les autres. On avait donné quelques exemples, l'effet boomerang, l'écho, etc. Et puis un autre point qu'on a vu aussi, c'est rappeler que nos paroles peuvent blesser. On a même été plus loin, on a vu que même les paroles sont capables même de tuer. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et on peut le comprendre, je réfléchissais à ça tout à l'heure. C'est par une parole qu'on se tourne vers Dieu et qu'on acquiert le salut. C'est par un acte de foi. Il a suffi pour cet homme qui était, je ne sais pas s'il était à la droite ou à la gauche du Seigneur Jésus, juste de se tourner vers le Sauveur et lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne ». Il a fallu juste cette parole pour que ce brigand, qui peut-être toute sa vie n'a jamais cherché Dieu, mais in extremis, parce qu'il a ouvert sa bouche comme il le faut avec foi, eh bien, il a obtenu le salut. Oui, par une parole, nous pouvons acquérir, nous pouvons posséder la vie, nous pouvons produire la vie, tant en nous, eh bien, que également dans le cœur de ceux qui pourraient nous écouter. Et puis on a vu aussi que toutes nos paroles seront utilisées, eh bien, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, soit bien sûr pour nous justifier, soit eh bien pour nous condamner. D'où l'importance d'exprimer la prière qu'a formulée en son temps David et que nous avons lu ensemble en conclusion. C'est le psaume 141, verset 3. Voilà un premier verset. Je vous en prie, chauffez vos stylos parce que je veux vous bénir ce matin par la parole de Dieu, avec nombreux passages eh bien, de la Bible. Premier texte que nous lisons, « Éternel, mets une garde à ma bouche ». Veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Et puis on avait aussi conclu eh bien, ce temps de partage avec eh bien, ce texte dans Jacques chapitre 1, le verset 26. Je vous lis ce texte dans la version parole de vie cette fois-ci. Il nous est dit, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Et si nous sommes là ce matin, c'est que, eh bien, tout simplement, nous désirons les uns les autres être meilleurs. Nous désirons pleinement, eh bien, que nous puissions sortir de ces lieux grandis, fortifiés, renouvelés, que nous puissions, eh bien, voir notre foi grandir. Et encore, nous voudrions ce matin que le Seigneur puisse nous parler par sa parole. Et justement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse poursuivre sur ce thème, sur ce sujet, eh bien, qu'est les paroles. C'est un sujet inépuisable. Et j'aimerais juste ce matin nous laisser trois conseils que Dieu pourrait nous laisser par rapport à nos paroles. Trois conseils bibliques eh bien, concernant nos paroles. Très rapidement, le premier conseil que j'aimerais nous laisser concernant nos paroles, c'est le suivant. Et la palice ne dirait pas mieux, c'est évident. Il nous faut veiller à ce qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Il nous faut bannir de nos bouches toute forme de parole mauvaise. Et j'ai quelques versets aussi pour eh bien, vous étayer ce que je suis en train de vous dire. Éphésiens chapitre 4, verset 29, par exemple. L'apôtre Paul qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Autre passage, Colossiens chapitre 3, verset 8, « Ne le cherchez pas, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. » Et il n'oublie pas de dire aussi « paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Mais je note avec vous ce verbe qui a été utilisé à l'impératif, renoncer. Donc n'allons pas chercher derrière le renoncement à une colère ou une animosité un quelconque démon. Non, l'apôtre Paul s'adresse à notre volonté et il nous incombe de pouvoir renoncer puisque nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de rejeter toutes ces formes de choses négatives comme la colère, l'animosité, la calomnie, mais aussi les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. D'ailleurs, j'ai une autre version pour vous, c'est la version Bible français courant, toujours de ce même texte, Colossiens 3, verset 8, il nous est dit « Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. » Et la question, elle arrive à point, un chrétien peut-il faire sortir de sa bouche des paroles grossières ? Oui ou non ? Elles sont simples, les questions. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture. Pourquoi vous rigolez ? Vous êtes au volant de votre voiture sous l'autoroute et quelqu'un, sortant de nulle part, un automobiliste, vient vous faire une méchante queue de poisson. Ou même vous prive, ou vous refuse la priorité qui vous est due. Et la question revient. Que va-t-il sortir de notre bouche juste à ce moment-là ? Est-ce que ce sont des louanges ? Ou est-ce que ce sont... Point de suspension. Un jour, j'ai entendu un prédicateur, un pasteur, au cœur même de son message, à plusieurs reprises de sa prédication, envoyer des paroles grossières comme ça. Et il l'a fait sans aucune gêne, sans prendre égard à l'auditoire qui était en face de lui. Et il expliquait qu'il le faisait en toute liberté, parce que de toute façon, Dieu ne regarde pas à cela. Et puis, au nom de la liberté que nous avons en Jésus, on peut se permettre de dire des choses ou de faire n'importe quoi. La liberté en Jésus-Christ a bon dos. Alors parlons-en, on l'a même chanté tout à l'heure, concernant, oui, je suis libre, je suis enfant de Dieu. Certes, nous avons été libérés. La Bible dit, si l'Esprit de Dieu est présent quelque part, là où se trouve l'Esprit de Dieu, là où se trouve la liberté. Et si vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, vous êtes libre dans le nom de Jésus-Christ. Libre pour louer Dieu, libre pour dire non au mal et oui au bien. C'est ça la véritable liberté. Certes, nous avons acquis une merveilleuse liberté en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, à côté de cela, nous rappelle aussi une réalité que je voudrais aussi placer devant nos yeux ce matin. Galates chapitre 5, verset 13, s'il vous plaît, cherchez-le avec moi. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, ça c'est certain. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns et les autres. Amen. Mais revenons à notre propos, je referme là la parenthèse. Oui, que Dieu nous aide à bannir toute forme de mauvaise parole. Toute forme de parole qui pourrait blesser autrui, qui pourrait faire du mal, qui pourrait non seulement se faire semer dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur de ceux qui nous écoutent, des choses mauvaises que nous aurions par la suite à regretter. Et j'en cite quelques-unes de ces paroles. C'est par exemple les paroles mensongères. C'est par exemple les paroles flatteuses. Celui qui vous flatte tend un tapis sous vos pieds. C'est également ces paroles médisantes ou calomnieuses. Ce sont aussi les paroles grossières et vulgaires, on en a fait mention un peu avant, les paroles moqueuses, les plaisanteries ou blagues malsaines. Alors on rigole, mais on oublie peut-être que nous avons le Saint-Esprit. Au contraire, frères et sœurs, Dieu désire que nous puissions, lorsque nous ouvrons la bouche, exprimer le langage du ciel. Vous savez qu'il y a un langage dans le ciel. Il y a un langage sur la terre, il y a un langage même au travail, il y a un langage même dans la rue. Mais il y a un langage du ciel. Et comme nous l'avons chanté, si nous faisons partie intégrante du royaume des cieux, nous sommes appelés à pouvoir sortir de nos bouches un langage digne du ciel. Un langage digne de fils et filles, du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Car à cause de notre position de fils et fille du roi, Dieu attend que nous puissions, alléluia, manifester, faire sortir de nos bouches des paroles nobles et non des paroles ignobles. Je fais un jeu de mots. Dieu veut que nous sortions de notre bouche des paroles nobles et non des paroles ignobles. Un texte que j'aime beaucoup dans le livre des Proverbes. Ceux qui n'ont jamais lu le livre des Proverbes, je vous encourage à pouvoir lire ce merveilleux livre de la Bible qui est le livre des Proverbes. Si quelqu'un veut acquérir la sagesse, de l'intelligence, lisez les Proverbes. Il y a tellement et nombreux conseils au travers de ce livre. Proverbes chapitre 17, verset 7. La Bible dit « Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. » Et je suis en face de personnes nobles. Frères et sœurs, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes fils et filles du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Nous sommes partie intégrante d'un royaume. Nous marchons, alléluia, c'est vrai, sur terre, les pieds sur terre, mais déjà notre cœur est déjà au ciel. La Bible dit, nous sommes déjà spirituellement assis dans les lieux célestes. Et imaginez-vous un seul instant des paroles mauvaises là-haut dans le ciel, mais c'est juste impossible, c'est impensable. Jésus, notre exemple, sur la croix, et j'aime à le dire, il a montré sa noblesse, il a montré sa dignité. Alors qu'il était en train d'être raillé par ses bourreaux, être moqué par la foule qui était en face de lui, alors qu'il finissait d'être méprisé par ceux qui l'avaient cloué sur cette vulgaire croix, Jésus, lui en retour, qu'est-ce qu'il a exprimé de sa bouche ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et comprenez qu'en parlant ainsi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a manifesté justement le langage du ciel. Ce langage qui est complètement inconnu, inaccessible aux païens. Mais je me rends compte aussi, ce langage est aussi, pour les chrétiens charnels et immatures, quelque chose qui les dépasse encore. En parlant ainsi, Jésus a choisi d'avoir une attitude noble, qui consiste, bien sûr, vous l'avez compris, à ne pas rendre le mal pour le mal. L'histoire raconte, c'est l'historien Joseph qui raconte que quand on crucifiait ces condamnés, souvent ils utilisaient leur dernier souffle pour maudire la foule qui était là en spectateur. Mais Jésus, lui, se distinguait de tous les autres crucifiés. Il a choisi de bénir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà notre modèle ce matin. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? C'est celui que nous voudrions désirer pour notre propre vie, Seigneur. Te ressembler, tel est mon désir. Paul a dit à Timothée la vérité suivante, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, tout d'abord en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Soyons les uns pour les autres des modèles en parole. Ce matin, alléluia, venir et puis bénir, choisir de bénir le frère, la sœur, quel qu'il soit, frères et sœurs, ça réjouira le cœur du Seigneur Jésus. Voici donc ce premier conseil, ne pas laisser de mauvaises paroles venir souiller notre cœur, souiller notre être tout entier et nous empêcher d'être fin prêt pour le divin rendez-vous, celui du Seigneur Jésus-Christ. Un deuxième conseil, si vous le permettez. Le deuxième conseil que j'aimerais nous laisser à chacun d'entre nous, et toujours concernant nos paroles, c'est qu'il s'agit pour nous ce matin d'être prompt à écouter et lent à parler. On le sait ça, c'est écrit dans la Bible, on le trouvera tout à l'heure. Pourtant le constat que nous pourrions faire les uns les autres, c'est qu'on parle beaucoup. Et malheureusement, nous écoutons que trop peu. Pourtant, j'aime aussi à le dire, Dieu nous a créés ainsi, il nous a créés avec deux oreilles et une seule bouche. Comme pour faire passer le message, je n'ai pas envie de dire un message subliminal, mais le message suivant, pour nous inviter à pouvoir deux fois plus écouter que de parler. Je ne sais pas si vous savez quelle est la personne qui parle la plus rapidement ici-bas sur cette terre. Si je vous dis que c'est une femme, vous allez me croire ? C'est une femme, Fran Capo, vous regarderez même sur Internet. Et cette femme arrive à débiter 603 mots en moins d'une minute. Je vais être exact avec vous, environ en 54 secondes, elle débite 603 mots. Pa, 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 pa. Alors je ramène ça à la seconde. En une seconde, elle débite 11 mots. Je crois que nous sommes loin du compte. je pense, à mon sens. En tout cas, elle tient le record. Mais je constate avec vous combien de fois nous avons parlé beaucoup, beaucoup plus qu'il ne le fallait. Comme je l'ai dit dimanche dernier, des choses qu'on a dites, qui sont sorties, puis après on s'en est mordu les doigts, les lèvres. Et encore une fois, on a parlé trop rapidement, on a trop parlé. D'autant plus que d'ailleurs, Salomon, qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ça, ça me plaît, ça. Un homme prudent. « Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Mais celui qui parle beaucoup, eh oui, on est tellement imparfait. » Alors finalement, dans tout le flot de paroles, eh bien qu'on pourrait débiter comme ça, forcément, à un moment donné, on va faillir. On a besoin de faire des progrès. On a besoin d'avancer. J'aime aussi ce petit proverbe, ce proverbe chinois qui dit la chose suivante. « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. » Alors c'est net, clair, c'est propre. Nous sommes invités, frères et sœurs, alléluia, à pouvoir, bien sûr, savoir écouter. Savoir écouter. Et peut-être un peu moins parler. Regardez ce que dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et je voudrais peut-être un petit peu détailler ce deuxième point, ce deuxième conseil, en rappelant que nous avons besoin de faire des progrès à ce niveau. Et cette règle, nous devons l'appliquer premièrement vis-à-vis de Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu. Ce matin, si nous sommes venus là, c'est parce qu'on a voulu s'approcher de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, que ce soit par le biais de la prière, on a besoin de pouvoir être silencieux, prompt à écouter, avant de s'empresser à pouvoir apporter un flot de paroles. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 4, du verset 17 jusqu'au chapitre suivant, le chapitre 5 et au verset 2. On lit ensemble. « Prends garde, » et c'est Salomon, le grand roi, l'homme le plus sage au monde, qui exprime ses paroles, il dit « Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le chapitre suivant, le chapitre 5, le verset 1, qui est une continuité, bien sûr, à ce que nous venons de lire, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car vois-tu, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Alors que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Amen. Salomon, là, a tout dit. Comprenez-moi bien. Il n'était pas en train de dire à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas parler. Parce que là, ce serait grave, ce serait triste qu'il n'y ait personne qui prie. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il nous faut venir et puis avoir cette liberté de parler, de nous adresser à notre Père Céleste. Non, Salomon, là, ici, met l'accent sur la sagesse que nous devons avoir lorsque nous approchons de Dieu. Dieu n'est pas un copain, Dieu est notre Père Céleste, Dieu est celui qui veut prendre soin de nous, Dieu est celui qui veut, alléluia, pleinement écouter nos prières. Non, Salomon nous exhorte ici à mesurer nos paroles lorsque nous nous adressons à lui. Salomon nous exhorte à ne pas débiter un flot de paroles qui quelquefois sont sans fin, irréfléchies, machinales. Vous savez, on a ce patois de canard, on débite, on est habitué à prier, on le fait, mais on ne réfléchit pas. D'ailleurs, quand on dit « Amen », on a déjà oublié ce qu'on a demandé au début de la prière. À qui c'est déjà arrivé, ça? Ah, personne ne lève le doigt, là. Pourtant, j'ai l'impression que ça nous est tous arrivé, moi le premier. Jésus a dit la vérité suivante, Matthieu chapitre 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il y en a même qui font des records. « Ah, aujourd'hui j'ai prié 5 heures, tu m'entends, 5 heures !» Et puis ils ont débité, etc. Inlassable, c'est un marathon qu'ils font. Mais je me demande si ce n'est pas un marathon charnel. Car il est important pour nous, même dans nos moments de prière, de savoir aussi faire silence et écouter Dieu. Vous savez, la prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas venir, on commence, on débite, et tout ce qui nous vient par l'esprit, on babababababa. Non, il y a un moment donné où, dans une conversation, un dialogue logique, on parle, notre auditeur nous écoute, notre interlocuteur nous écoute, et puis, à l'inverse, on s'arrête de parler et on laisse eh bien, la personne en face nous parler. C'est un dialogue. Et je crois que dans nos moments de prière, Dieu est capable, dans le silence, de nous parler. Et combien nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, nous fortifier, nous revigorer, nous encourager, frères et sœurs. La Bible dit, c'est David qui le dit, ne le cherchez pas, psaume chapitre 12, verset 7, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et sept fois épuré. » Et frères et sœurs, quand on prend le temps de s'appliquer, d'écouter la voix de Dieu, on gagne du temps. On est là peut-être devant une solution, devant un problème, on est là dans une impasse, on ne sait pas quoi faire. Frères et sœurs, si nous avons la grâce, le privilège d'entendre la voix de Dieu, alors nous avons gagné du temps, on va gagner de l'énergie. On va gagner tout, on sera gagnant sur toute la ligne, frères et sœurs. D'où l'importance d'écouter Dieu, afin qu'en retour, alors que nous écoutons Dieu, nous recevons tout ce qu'il a à nous dire, eh bien, qu'en retour nous puissions être une bénédiction eh bien, pour ceux et celles qui nous entourent. Un texte que j'aime beaucoup, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Mais comment s'y prend-il pour que notre langue devienne une source de bénédiction autour de nous? La fin de ce verset 4 nous en donne l'explication, la réponse. Il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Frères et sœurs, sachons écouter Dieu. Je le dis, et je m'englobe aussi, nous parlons trop, même vis-à-vis de Dieu. Mais apprenons, même dans nos moments de prière, à faire silence et laisser Dieu nous parler. Car Dieu, qui a créé la bouche, sait parler, frères et sœurs. C'est étonnant quand on voit même Moïse qui vient répéter le décalogue, vous savez qu'on a étudié bien tantôt. On constate que Moïse, à un moment donné, avant d'énumérer, de rappeler ce décalogue, va dire « Écoute, ô Israël, schéma, ô Israël !» Et on pourrait comprendre quelque part que le premier commandement que Dieu place devant nous, c'est le fait de savoir écouter. Est-ce que tu as des oreilles? Vous savez, la différence entre entendre et écouter. J'entends ce que tu dis. Mais la notion d'écouter, c'est écouter dans le but d'obéir. Et c'est cet état d'esprit que nous devons avoir. Est-ce que tu écoutes Dieu? Et parce que quelquefois on n'a pas écouté Dieu, on est passé à côté de ce que Dieu voulait pour nos vies. Le temps a passé, même des années sont passées. Et on était là, à bien se battre, et on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su écouter Dieu. Quand on écoute Dieu, c'est synonyme de salut. Frères et sœurs, que Dieu pleinement nous aide à comprendre ces choses. Et que nous soyons assez sensibles, alléluia, à la voix du Seigneur, pour le laisser nous conduire, nous diriger. Peut-être quelqu'un est là et ne sait plus quoi faire dans une certaine situation. Prosterne-toi devant Dieu, dans le silence, peut-être dans le secret même de ta chambre, et invoque Dieu. Demande-lui son aide et il va t'aider. Il va te secourir, il va t'aider. Amen, frères et sœurs. Devons faire silence, apprendre à faire silence pour mieux écouter, prompt, comme nous l'avons dit, à écouter et lent à parler. Nous devons aussi être lent à parler dans certaines circonstances difficiles de la vie. Par exemple, lorsque nous sommes méprisés, lorsque nous sommes raillés, lorsque nous sommes critiqués, calomniés, il arrive quelquefois que le Saint-Esprit nous demande de faire silence. Et c'est là où il faut plus que jamais écouter. Vous êtes d'accord avec moi? Alors c'est un exercice très difficile, qui n'est pas évident à faire, surtout quand ça boue à l'intérieur, surtout quand on a raison. Aïe, 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 aïe. Mais c'est un exercice qui n'est pas impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et notre exemple eh bien, que le Seigneur veut encore placer devant nos yeux, c'est celui du Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. » Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Je vous ai déjà raconté en son temps cette expérience que j'ai vécue alors que j'étais dans mon travail séculier. Je vous l'ai dit, je travaillais dans un bureau d'études. Et puis à un moment donné, je ne sais pas, cette collègue qui peut être mal lunée, je ne sais pas, et je ne sais même pas pourquoi et quelle raison, elle est venue vers moi. J'étais là gentiment en train de travailler devant mon ordinateur. Elle arrive à ma hauteur, moi j'étais assis. Elle arrive et commence à crier sur moi, à m'envoyer des injures et plein de choses. Et j'entends à côté de ça la voix du Seigneur qui dit « Joël, je te demande, tu dis rien, tu te tais. » Et je vous assure que Dieu, ça sait, ça bouillait au nom de « Tais-toi. » Et elle commence, elle continue. Elle essayait de voir si j'allais souffler sur le feu qu'elle était en train d'allumer. Et en plus de ça, il y avait tous les autres collègues qui venaient dans le bureau pour regarder. Tout le monde savait que j'étais chrétien là-bas. Ah, le gars qui prêche l'évangile, le gars qui parle de Jésus, on va voir dans les faits si ça avait été un chrétien. Et j'en voyais qui rigolait, qui souriait. Ah, il va finir par craquer. Mais ce jour-là, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir faire silence. À lui toute la gloire, j'ai aucun mérite, frères et sœurs. On est tous pareils. Et Dieu m'a donné la grâce de pouvoir me taire. Et puis, comme elle voit qu'il n'y a pas de répondant en face, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est la Bible qui le dit dans le livre des Proverbes. Eh bien, elle s'est tue. Elle s'est tue. Quelquefois, un problème s'alimente, une querelle s'alimente. Pourquoi ? Parce qu'on nourrit mutuellement la chose, on souffle dessus. Le diable allume le feu et nous, on souffle dessus. Mais quand vous taisez... Et alors, pour la petite histoire, pour terminer, donc le lendemain, elle est revenue très tôt. Elle s'est garée, mais elle avait oublié d'éteindre ses phares, les phares de son véhicule. Et je l'ai vu. Pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre ? J'ai vu. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors gentiment, j'ai frappé à sa porte, elle a aussi son bureau. « Excuse-moi, Catherine, elle s'appelait. Catherine, excuse-moi, tu as oublié tes phares. » Avec un large sourire. C'est pas évident. Et puis elle m'a dit « Merci. » Je vous assure, depuis ce jour-là, elle a eu une toute autre attitude à mon égard. C'était politesse sur politesse. Joël, ça va, tout ça, etc. Une personne transformée. Frères et sœurs, sachons faire silence. Cette histoire est là pour nous inviter à faire silence quand Dieu nous le demande. Il y a des circonstances, vaut mieux, frères et sœurs, alléluia, de pouvoir faire silence. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10 et le verset 4, la chose suivante. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Mon frère, ma soeur, ne quitte pas ta place. La place que le Seigneur t'a assignée, tu es enfant de Dieu. Et Dieu attend de toi un langage noble, un langage qui vient du ciel. Ne quitte pas ta place, physique et spirituelle. Fais silence. Parce que Dieu lui-même a combat pour toi. Il faut en tout cas reconnaître qu'il y a certaines situations qui réclament impérativement que le silence soit notre part, soit notre partage. Quelquefois, dans certaines situations, les paroles sont impuissantes et même, j'ai envie de dire, inappropriées. Seule peut-être la présence de la bienveillance, seule peut-être, j'ai envie de dire, nos oreilles attentives sont à propos. Et je voudrais vraiment imaginer la chose avec les trois amis de Job. Vous savez, ces trois amis sur lesquels on a bien souvent jeté la pierre. Mais je veux dire, c'était de véritables amis de Job. Je relisais ce texte dans Job chapitre 2, versets 11 à 13. Je vous encourage à pouvoir le lire avec moi. Job chapitre 2, du verset 11 à 13. Regardez. Job chapitre 2. Du verset 11 à 13, super, il est projeté. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Parlant de Job, bien sûr. Ayant de loin porté les regards sur Job, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Qu'est-ce qu'ils firent ? Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'ils firent encore ? Et ils se tinrent, alors là c'est la cerise sous le gâteau, ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une seule parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. N'allez pas me dire que ces 3 amis n'étaient pas de véritables amis pour Job. Ils ont quitté leur famille. Quand ils ont vu, l'émotion a commencé à les saisir. Et ce qui est étonnant, c'est pendant 7 jours, vous l'aurez fait vous, franchement. Sans parler, sans mot, jour comme nuit, 7 jours accompagnés dans le silence, la souffrance de leur ami. Il y avait une forme de solidarité de leur part. Quelle preuve d'amitié. Les 3 amis de Job restèrent 7 jours dans le silence. Et l'empathie aux côtés de leur ami éprouvée. Mais, voilà, il y a un mais. Lorsque, eh bien, c'est 3 amis ont commencé à ouvrir la bouche, ça a été le début de la fin. Ça a été catastrophique, oui, comme a dit le frère. Si bien que Job leur fit un reproche, qu'on peut aussi lire toujours dans Job, Job chapitre 13, verset 5, ne cherchez pas. Que n'avez-vous gardé le silence ? Vous auriez passé pour avoir, quoi ? De la sagesse. Job regrette leur silence. Vous étiez parfait. Vous étiez, eh bien, à ce moment-là, les meilleurs des médecins. J'avais besoin juste de cette écoute, de cette attention, cet accompagnement. Que n'avez-vous gardé le silence ? Quelquefois, on a voulu donner réponse à tout. Il y a des situations que certaines personnes peuvent traverser. Tant qu'on ne les a pas vécues, frères et sœurs, vaut mieux se taire. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire ? Il y a ce texte dans Proverbes chapitre 17, verset 28 qui dit « L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Faire silence quand il le faut réclame de notre part, c'est vrai, de la sagesse, mais j'ai envie de dire aussi de la maturité spirituelle. Que Dieu nous aide alors à nous taire quand cela est strictement nécessaire. Amen, frères et sœurs. Et puis un troisième et dernier conseil. On vient de voir qu'il est important d'être prompt à écouter, lent à parler. Je voudrais terminer, mais je serai assez court, concernant ce troisième conseil. C'est qu'il nous faut, lorsqu'on ouvre la bouche, toujours choisir de bénir. Et bien évidemment, jamais maudire. Toujours bénir. La Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 9 à 10, on l'avait lu dimanche dernier, je le replace devant vos yeux. Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors prenons la résolution de toujours bénir le prochain quel qu'il soit. Qu'il soit notre ami, qu'il soit notre ennemi. Choisissons toujours de bénir, comme d'ailleurs le Seigneur Jésus nous le demande. Luc chapitre 6, verset 28, vous connaissez ce passage. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Romains 12, verset 14 également. Romains 12, verset 14 et la version parole vivante. Il nous est dit, s'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir, s'en remettre toujours à Dieu, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes capables de relever ce challenge avec le Saint-Esprit ? Seigneur, que ma bouche, elle te soit pleinement consacrée, qu'elle te soit pleinement sanctifiée. Et je ne veux pas, par ma bouche, faire en sorte que mon être tout entier, eh bien, puisse pécher ou attrister ta personne. Et puis, bien sûr, prendre la résolution de toujours bénir le prochain, mais aussi prendre la résolution de toujours bénir Dieu, quelles que soient les circonstances. Quand tout va bien, mais aussi quand tout semble aller mal. Alors, c'est facile quand tout va bien. On est là, on est dans la reconnaissance, Seigneur. Ah, je me suis régalé cette semaine, tu m'as béni de toutes parts. J'ai été débordé de ta grâce, de tes bénédictions. Et puis, quand l'épreuve arrive, silence radio. Et le Seigneur vient vers nous, il dit, mais tu ne me parles plus ? Non, je suis fâché. Quelquefois, et c'est un manque d'immaturité. On se fâche. Ah Seigneur, tu ne m'as pas béni. Je voulais eh bien, que tu me donnes à aller plus vite eh bien, dans mes démarches administratives. Je suis fâché. On est fâché pour tout. Et on ne veut pas essayer de comprendre. D'ailleurs, il y a des choses que Dieu ne nous expliquera jamais, ce serait trop long. Et quelquefois, si le Seigneur tarde dans une apocalypse, il sait ce qu'il fait. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, il sait ce que nous ne voyons pas. Nous, on est les brebis qui broutent, mais lui, il est le berger qui regarde au loin et qui a déjà réfléchi pour le lendemain, savoir où il va mener ses brebis pour qu'il puisse avoir le bon et gras pâturage. À quel moment le Seigneur a fait défaut à notre niveau? Jamais. 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 Et il est important pour nous de bénir Dieu en tout temps. Quand tout va bien, quand tout va mal. Regardez ce qu'a dit David. Psaume 34, verset 2, j'en ai bientôt terminé. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand vous vous levez du bon pied ou quand vous levez du mauvais pied. Quand le patron vous regarde bizarrement, vous bénissez le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Quand le chien du voisin aboie, bénissez. Je ne sais pas s'il faut bénir le chien, mais bénissez. Bénissez Dieu. Seigneur, tu sais ce que... Peut-être tu veux m'apprendre la patience. Je ne sais pas. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Dans toutes circonstances, il y a une volonté de Dieu. Dieu a déjà pensé la chose. Il a déjà travaillé à ce que nous soyons plus que vainqueurs en retour. Il nous faut bénir Dieu quand tout va bien, mais aussi quand tout semble aller mal. Et j'en ai pour preuve, eh bien, avec vous, l'exemple toujours de Job. Vous savez, quand il a tout perdu. Mais il a perdu tout. Ses richesses, ses serviteurs, ses enfants. Combien avait-il d'enfants? Qui peut me le dire? Quelqu'un dit 7, qui dit mieux? 10. 7 fils et 3 filles. Le même jour, ils étaient en train de faire une petite fête. Et merci Seigneur pour la communion qu'il peut avoir dans les familles, où ils peuvent se retrouver ensemble. Ils ne faisaient rien de mal, ils se retrouvaient, ils se réjouissaient. Et puis il y a eu ce vent, cette tempête, et puis les murs se sont écroulés sur eux. Quel drame! On ne peut même pas chercher le diable et dire mais c'est à cause du diable. Non, c'est un effet naturel, la tempête est là. Pourtant, c'était le diable qui était à l'origine de ça. Job, humainement parlant, avait toutes les raisons du monde pour pouvoir au moins faire silence ou bouder le Seigneur. Mais ce qui m'émeut et ce qui doit nous interpeller, parce que cet homme n'avait pas la connaissance que nous avons, nous, qui sommes issus de l'Église de Christ. C'était un homme, Job, milliers d'années en avant, mais le peu qu'il avait, la foi qu'il avait, a donné à cet homme de pouvoir faire la déclaration suivante, Job chapitre 1, du verset 21 à 22, s'il vous plaît. Il est dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh ! En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous savez, quand il a prononcé ces paroles, ici-bas sous la terre, j'en suis convaincu, ça c'est moi qui parle, hein, c'est pas ce que dit la Bible, mais je suis sûr qu'il y a eu un applaudissement, les anges, tout le monde applaudissait là-haut dans le ciel. Et le cœur du Père était très fier d'entendre ce qui est sorti de la voix de son enfant. Et Dieu a eu raison au départ de dire à Satan, t'as pas vu mon serviteur Job? Il est comme ça. Moi, je voudrais que le Seigneur, quand il me voit, il dit, lui, il est comme ça. Bon, il y a du travail. Hein. Mais on a besoin de pouvoir réjouir le cœur de Dieu. Alors que Dieu nous donne la foi qui a permis à Job de bénir Dieu. Même quand tout s'est écroulé autour de lui, c'est le cas de le dire. Et nous voyons la fin de son histoire, vous pourrez relire tout le livre de Job, comment Dieu en retour l'a béni. Que dire en conclusion? Le Seigneur, à travers sa parole ce matin, nous a adressé donc trois conseils, trois précieux conseils que nous avons besoin de mettre en pratique. Ce n'est pas seulement d'écouter ou d'entendre, mais de mettre en pratique. Il nous exhorte à renoncer aux paroles mauvaises. Arrête, cette voie-là, elle mène à rien, c'est une voie d'impasse. Elle va t'enfoncer plutôt qu'autre chose. On a vu, deuxième conseil, être prompt à écouter et là à parler. On a compris qu'il y a des situations, vaut mieux se taire. Et puis enfin, à utiliser notre bouche pour constamment bénir Dieu. Constamment bénir Dieu, mais aussi notre prochain. Et frères et sœurs, vous l'avez compris, si nous mettons en pratique ces choses, alors nous serons heureux et joyeux sur le chemin de la vie. Je pense encore à ce passage de 1 Pierre chapitre 3 verset 10, et puis après quand nous prions, il nous est dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, ça c'est la volonté, le désir de tous les êtres humains, consciemment ou inconsciemment. Nous voulons tous voir des jours heureux, être aimer la vie. Voilà le conseil que donne l'apôtre Pierre, qu'il préserve sa langue du mal et s'élèvent des paroles trompeuses. Qu'il en soit ainsi pour nous. Préservons notre langue à bien de toute forme de souillure et que nous puissions, au contraire, utiliser cette langue pour bénir notre prochain et pour être tout à la gloire de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles encore en ce matin. Nous voudrions avant toute chose, Seigneur Jésus, te ressembler. Tu étais un exemple en tout point. La Bible dit que dans ta bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Même sur la croix, dans une situation très difficile, fatidique. Seigneur mon Dieu, tu as montré ta noblesse en prononçant des paroles, alléluia, glorieuses et qui ont servi encore à glorifier Dieu le Père. Nous voudrions apprendre de Jésus. Père Céleste, aide-nous chaque jour à pouvoir reproduire, mettre en pratique ce que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à écouter dans le but d'obéir, recevoir, Seigneur, tes directives, dans le but d'obéir, afin que nous puissions aimer la vie et avoir des jours heureux. Nous voudrions être ce matin intelligents. Seigneur, nous te confions notre langue. Et de la même manière, Seigneur Père, que David a demandé de mettre une garde à sa bouche, Seigneur, nous te demandons plus que jamais de redoubler cette garde au niveau des portes de nos lèvres. Pardonne-nous quand de nos bouches sont sorties des choses mauvaises qui ont attristé le Saint-Esprit. Pardonne-nous quand notre langue et nos lèvres, notre bouche a servi à maudire le prochain. Donne-nous au contraire à toujours utiliser notre bouche pour bénir le prochain quel qu'il soit. Seigneur mon Dieu, apprends-nous à faire des progrès jour après jour. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu nous bénisse par sa parole et nous aide à mettre toutes ces choses en pratique.